D'accord.
Personnes qui sont en train de régler leur entrée, donc on va leur laisser le temps de s'asseoir et on va démarrer. De la place là. Et on peut rajouter des chaises.
J'ai deux places ici. Ah, d'accord.
Bon, ben ça, je crois qu'on peut. Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux au Café Fido. Alors, avant de passer la parole à Nicolas qui expliquera s'il y a des nouveaux, comment se déroule un Café Fido, je voulais juste vous dire deux choses. D'une part, vous allez voir sur le bar. Une petite étiquette comme quoi on peut payer avec une carte bleue à partir de 1 euro. Malheureusement, ça n'est pas Philomania, c'est des étiquettes qu'on ne peut pas enlever qui appartiennent aux lycéens qui occupent habituellement la salle. Nous, on est encore obligés de vous demander des pièces, on n'a pas de lecteur de carte bleue. Donc, désolé pour cette information qui peut induire en erreur. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les derniers cafés philo, on a eu beaucoup de demandes de parole. Nos passeurs de micro étaient un petit peu débordés, avaient du mal à mémoriser dans quel ordre ils devaient donner le micro. Et surtout, on s'est aperçu que tout le monde n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer. Donc, systématiquement, nous donnons la priorité aux personnes qui demandent la parole pour la première fois. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'enregistre pas les autres demandes de parole, mais les personnes qui demandent à s'exprimer, qui ne se sont pas encore exprimées, auront la priorité. Donc je pense que c'est important qu'on vous le dise au départ pour qu'un maximum de participants puissent, à un moment donné, s'exprimer.
Voilà.
Bon café philo.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je me présente rapidement pour les nouvelles personnes. Donc, je suis Nicolas Léré. Donc, j'ai la chance d'animer ce Café Philo en co-animation, je cherche du regard avec Laurence Gavin, qui se présente une fois sur deux. Voilà. Je présente très rapidement, en 30 secondes, je veux dire, le protocole. Donc, dans un premier temps, là maintenant, vous pouvez proposer toutes les questions que vous avez envie de proposer, soit forme d'une question, soit forme d'une thématique, d'un mot même. On procède ensuite à un vote de manière assez rapide. Dans un premier temps, on peut voter pour autant de questions qu'on souhaite, et puis ensuite, s'il y a ex-aequo, on fera un vote décisif pour choisir de ce dont nous allons débattre ce soir. Voilà, et puis par avance, je m'excuse, j'ai donné une formation toute la journée, j'ai parlé, et j'ai progressivement perdu ma voix, et voilà, j'ai une voix qui tire un petit peu et qui n'est pas forcément très audible. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des thématiques à proposer, c'est maintenant, n'hésitez pas. Marie-France, les notes pour qu'ensuite on puisse
les déterminer. Vous passerez le micro et on a souvent des petits problèmes parce que les gens parlent comme ça des fois. Vous voyez que du coup, ça ne marche pas. Il faut essayer un peu. Ah bah tiens, regardez. Alors là, c'est la batterie. Déjà.
Allô ? Ah non ?
Bon, il avait un peu susceptible. En tout cas, il faut essayer de parler comme ça et comme ça. Ouais. Donc s'il y a des questions, je vous passe le micro, enfin des sujets à proposer.
Bonjour. Vous êtes
fermé là ?
Bonjour
à tous. Alors, la question, ce serait est-il possible, est-il normal de donner sa vie, enfin, mourir pour donner la vie ?
Mourir.
Est-il possible de mourir pour donner la vie ?
C'est ça, pour donner une meilleure vie.
Quel sens, juste un petit point pour qu'on puisse.
Je pensais surtout aux gens qui se battent pour une grève de la faim, par exemple, pour des causes humaines.
Entendu.
Oui, jusqu'où on peut aller, quoi.
D'accord. Jusqu'où peut-on aller, est-il possible de mourir pour donner la vie ou pour défendre la vie ? En l'occurrence, si vous faites référence à Thomas Braille, à l'heure actuelle. Bonsoir
tout le monde. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions. Donc, moi, ma question est très simple. Quelle est la racine de la peur ?
Quelle est la racine de la peur ?
Voilà, de la peur psychologique. Hein. Je ne parle pas de la peur devant un serpent.
Quelle est la racine de la peur ?
Ouais. Psychologique. Ce n'est pas la même chose que celle qui se manifeste dans l'instinct de survie, devant un serpent ou un truc dangereux physique ou en cours. Là, c'est la peur psychologique. Voilà.
Alors, bonsoir à tous. Donc, pourquoi souffrons-nous ? Quel est le sens de notre souffrance ? Pouvons-nous encore croire au bonheur alors que la souffrance est là et qu'elle sera là demain ?
Pourquoi souffrons-nous ?
Comment ?
Pourquoi souffrons-nous ?
Oui.
Attendre toujours le choix. Voilà, je veux dire par là, souvent, j'entends, on n'a pas le choix, je pense aux survivants de camps, de concentration, quoi que ce soit, j'ai pas le choix, j'avais une personne au-dessus de moi qui me disait de faire ça ou plein d'autres temps. Voilà, je trouve la question.
Avons-nous toujours le choix ?
Voilà.
Avons-nous toujours le choix ?
Doit-on se taire pour agir ?
Doit-on se taire pour agir ? Doit-on se taire pour agir ? Il y a d'autres propositions.
Bonsoir.
Ah, pardon.
Science et religion sont-elles compatibles ?
Très bien. science et religion sont-elles compatibles ? Est-ce que ça existe? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. L'âme. L'âme existe-t-elle? Vaste question. Je pense qu'on va poser la question. L'âme existe-t-elle?
Est-ce dans la nature de l'homme de faire rêver les gens?
Est-ce dans la nature de l'homme de faire la guerre?
La paix est-elle possible lorsqu'il y a un conflit entre autorité et obéissance?
La paix est-elle possible lorsqu'il y a conflit entre autorité et obéissance?
Lorsqu'il y a séparation entre autorité et obéissance.
Juste un petit mot pour préciser les enjeux. Un seul mot.
Lorsque autorité et obéissance ne sont pas sont séparés, c'est-à-dire sont séparés, je ne sais pas trop comment dire autrement.
Très bien.
Quand l'autorité est extérieure.
Ouais. D'accord. Donc, est-ce... on répète la question.
La paix est-elle possible?
La paix est-elle possible?
Lorsqu'il y a séparation entre autorité et obéissance.
Très bien, merci. Entre autorité et obéissance. Monsieur.
Bonsoir. Pour rebondir sur la question qu'il vient d'être posée, l'autorité est-elle toujours légitime?
L'autorité est-elle toujours légitime? Si vous avez d'autres propositions, on a déjà un certain nombre.
On en a 10.
10, c'est ça?
Oui.
Alors, Marie-Franc, d'autres propositions?
Non.
Alors, est-ce que vous pouvez nous les rappeler?
Alors, je rappelle tous les sujets. Mourir pour défendre la vie. Quelle est la racine de la peur? Pourquoi souffrons-nous? A-t-on toujours le choix? Doit-on se taire pour agir? Sciences et religions sont-elles compatibles? L'âme existe-t-elle? Est-ce dans la nature de l'homme de faire la guerre? La paix est-elle possible quand il y a un conflit entre autorité et obéissance? Et enfin, l'autorité est-elle toujours légitime?
Très bien, merci. Ça va. Oui, il y a matière à penser.
C'est copieux.
Il y a débat. Alors donc, on procède à un vote rapide. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez voter pour autant de questions que vous souhaitez, toutes, si toutes vous intéressent. Évidemment. Donc la première question, Marie-France.
Mourir pour défendre la vie.
Mourir pour défendre la vie.
La racine de la peur.
La racine de la peur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Pourquoi souffrons-nous ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
A-t-on toujours le choix ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Doit-on se taire pour agir ? Science et religion sont-elles compatibles ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
L'âme existe-t-elle ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Est-ce dans la nature de l'homme de faire la guerre ? La paix est-elle possible quand il y a un conflit entre autorité et obéissance ?
Conflit ou séparation, entre autorité et obéissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et enfin, l'autorité est-elle toujours légitime ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, si j'ai bien conservé ça en mémoire, j'ai l'impression qu'il y a égalité.
Non.
Il n'y a pas égalité entre deux.
Il n'y a pas beaucoup de différence, mais on a 25 voix pour attendre toujours le choix et 24 voix pour être dans la nature de l'homme et faire la guerre. Donc c'est
d'accord, j'avais gardé en esprit 25 et 25. Bien, est-ce qu'on a le choix ? Alors, attendre toujours le choix. Jeune homme, monsieur ?
J'ai pas le choix de parler.
Mais voilà. La petite règle, hein, la traditionnelle, c'est mais qu'est-ce qui vous anime dans cette question ? Pourquoi est-ce qu'on vous la posez, pourquoi est-ce qu'on se la pose, et pourquoi est-ce que ça mérite qu'on en débatte un petit peu ce soir ensemble, qu'on essaie de trouver des éléments de réponse.
J'ai voulu poser cette question parce que j'entends souvent, mais j'ai entendu il y a deux semaines encore, peut-être que moi-même aussi je me trouve des excuses des fois, j'ai peu le temps ou des choses comme ça, et je pense qu'on est tous responsables, enfin oui, j'ai déjà pour tous responsables des actes, ainsi que de notre vie, tout ce qui nous arrive, voire même arriver jusque le karma, ça c'est encore autre chose à côté, mais voilà, donc c'est pour ça que je vous posais cette question.
Voilà. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un veut déjà prendre la parole avant qu'on essaye de travailler un petit peu sur la question elle-même. Oui, madame. Attendez, pour que tout le monde vous entende. Voilà.
Je pense qu'on est toujours obligé de faire un choix. Même quand on ne fait pas de choix, on fait le choix de ne pas faire le choix.
Nous sommes condamnés.
Oui, à choisir.
À choisir. Oui, madame, oui.
Nicolas.
Ah, pardon, excuse-moi. Juste après. Excusez-moi, je n'avais pas regardé.
Je vous pose à deux points, encore une fois, mais toujours pour la question du choix. Avons-nous le choix d'éviter une seconde choix ?
C'est-à-dire, préciser un petit peu.
On vit des actualités, quoi. Je ne débatte pas là-dessus. C'est vrai que quand j'ai posé la question, je dois se taire pour agir. C'est-à-dire. C'est une question qui va se poser à partir du moment où on agit dans le bon sens. Donc, quand on sent qu'on est dans le bon sens, prend un point de vue, on ne pose pas de question. Donc, dans ce cas, le choix ne se fait pas, c'est bon sens. Après, on juge en conscience si c'est les conséquences qu'il y a derrière. Mais en tout cas, on fait un choix. Et puis...
On y va, quoi.
Et on y va.
Oui, voilà. Madame. Oui. J'ai envie de dire ce qu'on appelle un choix, parce que en fait, ça peut être une spéculation intellectuelle, et puis ça peut être factuel aussi. Donc, est-ce qu'on choisit en faveur des faits? Parce que ça, c'est factuel. Et puis, si on hésite, si c'est pas factuel et c'est théorique, alors là, on a le choix à l'infini, mais c'est pas concret. Enfin, je veux dire, ça mène pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut pas plutôt considérer les choix? Parce qu'à ce moment-là, les choses s'impliquent d'elles-mêmes, en fait. Non?
Oui, c'est ça. C'est que peut-être pour rebondir sur. Essayer peut-être d'analyser de manière un peu provisoire et première la notion de choix. C'est-à-dire que. On a d'abord l'impression qu'on n'a pas le choix, que le réel, les faits, vous parliez de faits, que le réel, admettons qu'on puisse définir ce que c'est que le réel, il s'impose à moi.
A-t-on toujours le choix ?
Que le réel s'impose à moi, est-ce que j'ai décidé de vivre ? Je n'ai pas choisi de vivre. On m'a jeté dans l'existence sans qu'on me consulte. Est-ce qu'un jour je pourrais choisir de ne pas mourir ? Ben non, c'est-à-dire que les deux pôles de mon existence, j'ai l'impression qu'ils nous échappent. Ma naissance, elle est là, elle est de fait. Ma mort, elle sera là, elle sera de fait. Et ensuite, la question, c'est mais qu'est-ce qui se passe entre ma naissance et ma mort ? C'est-à-dire, effectivement, je n'ai ni choisi de vivre et je ne choisirai pas d'avoir une vie éternelle, sauf parenthèse transhumanisme, etc. Fermons la parenthèse. Mais entre ces deux moments qui échappent à mon libre arbitre, est-ce que je peux faire l'expérience du choix ? Premier point. Est-ce que je peux ne pas faire l'expérience du choix ? Ce que vous mentionniez tout à l'heure, madame. Est-ce qu'on n'est pas condamné à devoir se choisir et choisir ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un petit peu la question que vous posiez tout à l'heure. Ou est-ce qu'au contraire, je dois faire avec le réel tel qu'il est, m'adapter autant que faire se peut à ce qui m'est donné à vivre, socialement, psychologiquement, physiquement, enfin bref, on pourrait multiplier les entrées, faire avec finalement une situation contingente, mais qui est là, qui s'impose à moi, ce qu'on pourrait appeler, si on voulait employer un terme de philosophie un petit peu, un peu technique, ce qu'on appellerait la facticité de l'être, le fait que l'être, il est là, c'est un fait. Voilà. Donc finalement, de quel libre arbitre est-ce que je dispose ? Est-ce que je suis condamné à être libre ? Est-ce qu'il n'y a aucune liberté ? Ça serait un mot, une illusion qu'on se donnerait pour je ne sais quelle raison, on pourrait peut-être l'évoquer. Ou est-ce qu'au contraire, il y a un sens à dire que nous avons le choix, des choix, soit des choix, effectivement des petits choix, quotidiens, entre ceci ou cela, entre la poire et le fromage, j'allais dire, ou des choix fondamentaux de type des choix affectifs, des choix sexuels, des choix professionnels, des choix politiques, des choix sociaux, etc. Finalement, de quelle liberté est-ce qu'on dispose ?
Du coup, pour répondre un peu à la question, on ne choisit que ce qui dépend de nous. Le reste, on est obligé d'accepter. Donc on a des choix limités.
Et toute la question, si je me permets de rebondir, après je vous laisse la parole bien sûr, c'est, on choisit que ce qui dépend de nous, mais qu'est-ce qui réellement dépend de nous ? Est-ce qu'on peut identifier des aspects de notre existence qui dépendraient de nous, par rapport à d'autres qui nous échapperaient ? Ou est-ce qu'au contraire, on doit admettre, position qui serait déterministe, que rien ne dépend de nous ? Que nous sommes agis bien plus que nous sommes acteurs. C'est juste pour reposer un petit peu les enjeux. Je ne sais pas qui prend la parole.
Madame.
Ah oui, pardon, madame, je cherchais du regard.
Moi, je me posais la question de savoir dans certains domaines quels sont les outils qui permettent à l'individu de faire des choix. Sur le domaine affectif, le domaine amoureux, etc. Dans un domaine social, professionnel, est-ce que tout le monde a les mêmes outils pour réellement effectuer ses choix.
Je vous laisse intervenir, je ne reprends pas la parole.
Non, en fait, mais voilà.
Non, je... Voilà, on va... Mais... Voilà, j'entends, hein, la question des outils, ce choix.
Il y a le choix.
Le choix de s'inscrire dans une vie sociétale. Est-ce que je m'inscris dans la société ou je décide de vivre seul? Si je décide de vivre seul, à partir de là, voilà, j'ai beaucoup plus de choix de faire ce que je veux de ma vie. Par contre, dès que je rentre dans une vie... commune, dans le monde du travail, du monde de la famille, voilà, là, les choix se limitent et sont obligatoires, respectés.
C'est-à-dire que le lien social réduit la possibilité.
Pour moi, c'est tout.
Oui, madame.
Ce que je voulais ajouter, c'était justement ce que vient de dire monsieur, c'est-à-dire qu'effectivement, tout dépend si nos choix sont dictés par... si on a envie de faire des choix uniquement pour nous-mêmes, ou si on fait des choix en fonction d'un certain nombre de contraintes ou de contingences, et notamment, effectivement, les personnes qui nous entourent, quelle que soit, notamment la famille, mais bien sûr, pas que. Donc, pour moi, il n'y a que des choix sous contrainte, mais effectivement, parmi ces contraintes, on a très très souvent le choix.
On choisit ses contraintes.
Non, il y a des contraintes pour tout choix.
Oui.
La plupart du temps, en tout cas dans un pays comme le nôtre, on n'a pas, on a plus de possibilités de faire des choix, même si ce sont des choix sous contrainte. Il y a des pays, je pense, où le choix n'est pas forcément aussi facile que ça.
Ça, c'est un autre aspect, effectivement. Il y a l'aspect social et politique de la question que vous mentionnez, madame.
Oui, bonsoir. Je suis ici, coucou.
Pardon.
J'ai bien aimé le... Entre ma naissance et ma mort, que je ne choisis pas, le reste, c'est ouvert. Et c'est vrai que le choix, c'est la liberté. C'est-à-dire que par définition, si on est libre, on a du choix. Si on n'est pas libre, on n'a pas de choix. Et donc, quand on dit « je n'ai pas le choix », ça veut dire quelque part qu'on renonce à sa liberté. Alors, on peut renoncer pour d'excellentes raisons. Parce que le choix, il y a des choix qui sont légers, puis des choix qui ont un prix extrêmement élevé. Donc il faut pas, tous les choix ne sont pas au même niveau. Là, je suis en train de refaire ma maison, je peux choisir la couleur de mes murs, bon, ça c'est pas très léger, malgré tout, choisir c'est renoncer, si je mets bleu, ce sera pas rose. Et puis par contre, je peux aussi choisir de ne pas m'arrêter au feu rouge, par exemple. C'est ma liberté, mais je fais le choix de respecter le feu rouge et de m'arrêter. C'est un choix, malgré tout, c'est-à-dire que quand je m'arrête au feu rouge, je me dis quand même que j'ai le choix. Je me dis pas que je n'ai pas le choix. J'ai choisi de respecter une règle commune, comme disait un interlocuteur. Donc, quand on vit en société, on peut choisir d'être une bonne personne pour cette société. Et puis, il y a aussi le choix. J'ai un pistolet sur la tempe et on me dit de faire quelque chose. Là, c'est pas le même coup si je refuse, si mon choix, c'est de ne pas faire ce qu'on me dit. Mais peut-être ce sera mon choix en fonction de ce qu'on me demande. Donc on a toujours à évaluer dans chaque choix ce à quoi on renonce et combien ça coûte de faire ce choix.
Oui, je me permets juste d'intervenir par rapport à ce que vous avez mentionné. Quand est-ce qu'il y a choix, en fait? Il y a choix, me semble-t-il, pour qu'il y ait choix, il y a trois conditions. Il faut d'abord qu'il y ait un éventail de possibilités. Un choix unique, type Poutine ou Poutine, c'est pas un choix. Bon. Mais ça ne suffit pas pour qu'il y ait un choix. Pour qu'il y ait un choix, c'est ce que vous mentionniez, madame, il faut que nous soyons outillés pour pouvoir déterminer telle possibilité aux dépens de telle autre. Pour pouvoir élire, choisir, c'est élire. Cet outil, traditionnellement, on appelle ça la raison. La raison va calculer, On va essayer de faire un petit tableau de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, débit, crédit, les avantages, les inconvénients. Et on va opter en fonction des lumières de la raison, traditionnellement, pour telle ou telle possibilité aux dépens de telle autre. À savoir si nous sommes toujours, c'est un peu ce que vous mentionniez, dans cette optique, vous voyez, rationnelle, rationaliste, comme des petits ordinateurs, comme ça, en train de calculer les possibilités qui seront pour nous les plus pertinentes, optimales, les plus efficaces, entre guillemets, si on veut employer ce terme de management contemporain. Et puis, il y a une troisième condition pour qu'il y ait choix. Donc, il faut y avoir un éventail de possibilités, il faut qu'il y ait une raison qui soit à l'œuvre. Et puis, pour qu'il y ait choix, il faut effectivement qu'il y ait une conscience. Et une conscience de, c'est ce que vous avez évoqué, de notre liberté, ce qu'on appelle la liberté, c'est-à-dire de notre capacité à être cause de soi, à être à l'initiative de, à être acteur et pas simplement agent. Et peut-être, je propose ça dans le débat, peut-être que ces trois conditions ne sont pas toujours ou rarement, parfois, enfin, vous prendrez l'adverbe qui vous convient, ne sont pas toujours satisfaites. Un éventail de possibilités, ouais. Est-ce qu'on a le choix d'échapper à la crise climatique? Une raison toujours à l'œuvre, bah oui, mais enfin, nous sommes aussi des animaux doués de sensibilité, nous avons des passions, des désirs, des convictions, des préjugés, nous sommes les héritiers de notre enfance et des influences diverses et variées. Et est-ce qu'on a toujours conscience de la liberté dont on dispose? En fait, le plus souvent, j'ai plutôt appris à obéir, à respecter telle ou telle consigne, telle ou telle règle, telle ou telle propriété, priorité, voilà, telle ou telle obligation. Et j'ai rarement été dans la position d'être acteur de ma propre existence. Vous voyez bien que l'immense majorité d'entre nous, au quotidien, nous obéissons. Oui, pardon. Oui. Oui, madame. Oui.
Ben, en fait, vous allez dire ce que
je voulais. Je suis vraiment désolé.
Vous l'avez sûrement dit.
Non.
Voilà, je voulais parler de la conscience et de la liberté.
Ouais.
Voilà. Non. Et puis peut-être pour rebondir sur ce qu'avait dit aussi la dame. Alors c'est vrai qu'il y a le choix par rapport à l'action. Mais vous disiez que dans notre pays, on avait encore, le choix, on pouvait encore faire des choix dans notre pays qui n'étaient pas forcément possibles dans d'autres pays. Mais moi, j'ai envie de dire aussi que, alors, justement par rapport à la conscience aussi, de la liberté, etc., bien sûr qu'il y a le choix d'agir, mais quand on n'a plus le choix d'agir, il reste le choix de penser, et quand on n'a plus le choix de penser, il reste le choix de rêver encore.
Merci. Oui, monsieur.
Je vais aller dans un peu plus alambiqué au niveau de la réflexion. Parce que si ça marche pas, comment ça marche? Si je choisis, je peux aussi prendre le choix de ne pas choisir. Parce que si je prends le choix de ne pas choisir, si je choisis, je n'ai plus le choix. Et si je ne choisis pas, je garde la possibilité d'avoir le choix. Donc c'est encore un peu plus. Et je pense que ça peut paraître un petit peu, ma pensée peut paraître un petit peu alambiquée, mais je pense que certaines personnes, au moment du choix, ne choisissent pas, justement parce qu'ils ont peur de choisir, ou ils se disent si je choisis, je n'aurai plus le choix. Donc je veux garder ma possibilité d'avoir du choix.
Oui, il y a la question que vous mentionnez de la peur du choix. La peur du choix, la peur de renoncer à, et la peur des conséquences et de la responsabilité de ce choix. Voilà, la responsabilité de ce choix, une fois que j'ai choisi. Je ne peux pas faire comme si je n'avais pas choisi. Oui, monsieur.
Ce que je voulais dire, c'est que... on fait des choix, mais nos conditions matérielles d'existence déterminent pas mal nos choix. Si on est pauvre, on va pas faire les mêmes choix que si on est riche. Selon notre couleur de peau, notre sociologie, notre genre, plein de choses, quoi. Et tout ça détermine nos choix.
L'héritage culturel,
Ouais, l'héritage culturel, très bien. Ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Bah, nickel.
Il y avait une première prise de parole aussi par là, qui a levé le doigt. Ah, j'avais cru. Bon, bah, alors on est sur d'autres. Alors, bon, bah, on a une dame là pour.
Si. Ah, oui, d'accord.
J'ai un vieux souvenir de philo où on m'avait appris que la liberté, c'était la loi qu'on se donne.
Oui.
Et je pense que le choix, c'est aussi la loi qu'on se donne. Pour rebondir sur ce que monsieur disait sur le feu rouge, j'ai toujours le choix de passer au rouge, c'est pas un problème. Après, est-ce que je vais l'assumer? Donc, en fait, je me donne une loi, celle de respecter l'ordre établi ou ne pas le faire. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est est-ce que j'ai le courage d'assumer les conséquences de mon choix. En fait, on a toujours la liberté, mais est-ce qu'on est capable d'assumer les conséquences de son choix? Et pour rebondir sur ce que monsieur vient de dire, certes, il y a des contingences économiques, il y a des contingences culturelles, il y a des contingences de plein de sortes, mais il y a toujours eu des gens qui ont su faire fi du regard qu'on posait sur eux, faire fi des convenances sociales, et c'est ces gens-là qui nous ont fait avancer. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont prennent toujours cette liberté de choix, qui ont toujours cette liberté de choix, parce que ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont capables de faire fi du regard des autres et de, je dirais, des conventions sociales. Et en fait, je pense, quand on dit qu'on n'a pas le choix, c'est souvent parce qu'en fait, on ne veut pas aller à l'encontre des convenances sociales.
Oui, alors ce que vous introduisez, juste une remarque, je ne prends pas trop la parole, c'est la notion d'autonomie. C'est-à-dire que on est parti, enfin en tout cas je suis parti dans ma première remarque liminaire sur le fait que nous ne serons jamais indépendants. Nous dépendons toujours et des lois naturelles et des lois sociales, ne serait-ce que ma vie et ma mort, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Donc l'indépendance, c'est un rêve d'enfant. On ne sera jamais indépendant. En revanche, ce que vous suggérez, c'est que nous pouvons certes faire le deuil de notre indépendance, mais ça ne signifie pas que nous fassions le deuil de l'autonomie. C'est-à-dire cette capacité à se donner ses propres lois, ses propres règles, cette capacité elle repose sur une faculté qu'on appelle la raison. C'est parce que nous sommes apparemment, j'ai bien apparemment, des êtres doués de raison, que nous sommes en capacité de nous fixer des lois, des règles, et de nous y tenir. Une sorte d'engagement affectif, professionnel, ou un engagement par rapport à la loi. Je serai un bon citoyen et je... ou un automobiliste prudent et sécurisant pour les autres, et je ne franchirai pas le feu tricolore lorsqu'il est rouge. Donc effectivement, c'est cette notion d'autonomie qui peut-être éclaire d'un jour nouveau la problématique de savoir si on a toujours le choix. On n'a pas le choix au sens où nous ne serons pas indépendants, mais peut-être, je dis un peut-être, hein, ça laisse le débat, je ne suis pas sûr que la réponse soit positive, mais peut-être que nous serions en capacité d'accéder à l'autonomie. En tout cas, l'éducation, c'est bien cela. Le dressage, on dresse un animal, c'est-à-dire qu'on lui impose un certain nombre de conditionnements. On éduque un enfant, c'est-à-dire qu'on lui donne les moyens, la possibilité d'exercer sa raison et d'accéder à ce qu'on appelle l'autonomie, c'est-à-dire de faire des choix. Oui, madame.
Alors, a-t-on le choix d'être en mauvaise santé? A-t-on le choix d'être gros ou d'être anorexique?
Très bien. Personnes qui n'ont pas encore parlé en priorité. Et puis, ensuite, on redonne la parole à tout le monde, bien sûr. Oui.
Je voudrais introduire la notion de soumission dans cette discussion. En sachant que, par exemple, pour la naissance, la mort, c'est déjà la définition. Enfin, pour moi, ça représente l'état de soumission. Mais notre vie, succession de moments et une succession de soumissions. Or, ce que j'entends, c'est qu'il y a des soumissions objectives. La Terre est ronde, en tout cas pour moi. C'est pas évident pour tout le monde, c'est vrai. Non, mais de toute façon, je suis confronté...
C'est le choix de la pensée plate. Hein.
Oui. Non, mais je suis confronté à un nombre d'éléments objectifs qui s'imposent à moi. Et là, la question du choix ne se pose pas. c'est un état de soumission à la réalité objective, j'ai envie de dire. Mais je peux consentir à accepter cet état de soumission pour ensuite agir. Il y a ensuite le problème relationnel. Est-ce que je suis toujours à égalité dans un système relationnel? Et il me semble qu'on connaît quand même beaucoup d'exemples où la soumission à une autorité fait que celui qui est soumis n'a pas le choix de discuter cette autorité. Et là, c'est là qu'apparaît, mais là, la différence que je fais par rapport à la réalité objective, c'est que je ne suis pas dans l'obligation de consentir à ce que dicte cette autorité. Et j'ai peut-être la possibilité de rechercher d'autres voies. Et là, c'est là que j'exerce ma démarche personnelle, j'ai envie de dire, mon implication personnelle dans est-ce que j'accepte ce que me dicte cette autorité ou est-ce que j'exprime un refus et que je cherche par mes propres moyens, enfin, une situation où je ne serai plus en soumission par rapport à cette autorité. Bon, je m'arrête.
Très bien, merci. Madame, oui.
En fait, est-ce que le choix est un problème, en fait? Parce que là, on est en train de parler du choix. Donc, est-ce que le choix est un problème? Et en fait, qu'est-ce qui craint en nous de faire ce choix? Parce qu'en fait, la vraie question, elle est là. Qu'est-ce qui en nous craint de faire un choix? Et pourquoi? Et pourquoi qui se pose des questions, etc. Si on médite dans ce sens-là, bah, peut-être qu'on en fera plus. Mais est-ce que le choix est un problème en lui-même, finalement? Voilà. Donc, qu'est-ce qui craint en nous de faire des choix? Parce qu'on en fait tout le temps, en fait. Mais on a peur. Donc, voilà.
Qu'est-ce qui anime mon choix? Quelle est mon intention quand je choisis? Je pense qu'il y a un processus de connaissance de soi qui est indispensable, ou en tout cas un processus introspectif pour être en accord avec soi-même. Donc c'est quelque chose qui relève plus de l'intuition, de la connexion à soi, pour faire des choix en accord avec ça, pour faire des choix éclairés, entre guillemets. Et donc, même si en apparence je peux ne pas avoir le choix parce que une autorité extérieure va m'imposer telle ou telle chose, j'ai le choix de la façon dont je réagis, le choix de la perception. Donc j'ai le choix une fois que j'ai fait ce processus, parce que c'est pas donné de façon innée comme ça de pouvoir relativiser. J'ai le choix de comment je me positionne, comment je réagis à tel ou tel événement. Et comment, effectivement, je peux refuser de me soumettre. Et voilà, je peux réagir avec colère ou je peux travailler dessus, réagir autrement. Mais en tout cas, voilà, quelle est mon intention quand je choisis? Vraiment, voilà.
Et pourquoi qu'est-ce que l'on craint? Et qu'est-ce que l'on craint lorsque l'on opère un choix? Et de fait, l'histoire... Vous disiez tout à l'heure, de personnes illustres, l'histoire regorge de personnes qui, à un moment donné, ont fait des choix qui ne correspondaient pas aux attentes sociales ou qui ne correspondaient pas à la logique même de leur existence. Vous prenez un de Soros et la désobéissance civile qui refuse de payer ses impôts pour ne pas financer la guerre au Mexique et l'esclavage aux États-Unis au XIXe siècle, qui va séjourner un très court temps en prison. Rosa Parks, pour prendre des exemples célèbres, des Martin Luther King ou des... on en parlait tout à l'heure dans une des questions de Thomas Braille, qui, à l'heure actuelle, est en grève de la faim, en grève de la soif, hospitalisé pour cela, pour protester contre le projet de construction d'une autoroute, l'autoroute A69, reliant Toulouse et Castres, qui représente à ses yeux, en tout cas, une atteinte au vivant, notamment en destruction de d'un écosystème et de pas mal d'arbres, d'accord. Cet exemple-là, je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort, hein, une fois, c'est pas l'objet, nous montre que visiblement, effectivement, on a le choix, on a le choix de faire la grève de la faim, de faire la grève de la soif, de se mettre, de mettre sa vie en danger pour une cause que l'on estime urgente, légitime, importante, si importante qu'on en donnerait sa vie. Et que si je m'y refuse, moi, qui ne suis pas en grève de la faim ni en grève de la soif, et qui suis en train d'animer ce qu'a fait Philo, c'est que j'ai fait un autre choix. La construction de l'autoroute me préoccupe, mais pas au point de faire le choix de Thomas Braille de me mettre en danger. Et je vais rentrer chez moi, et je vais manger, et je vais dormir, et je vais boire, etc. Et effectivement, on aurait l'impression, pour revenir à votre remarque, à votre question initiale, qu'on n'a pas le choix. Vous savez, c'est la fameuse phrase, je ne suis pas sûr qu'elle est si fameuse que ça d'ailleurs, de Margaret Thatcher, la première ministre anglaise, années 90, le fameux TNA, There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, c'est le libéralisme, il n'y a pas d'alternative, c'est la mondialisation, enfin, il n'y a pas d'alternative politique, économique, etc. Et finalement, on a l'impression, à notre échelle, qu'on vit ça. On est dans une sorte de soumission, comme pour reprendre ton expression tout à l'heure, de soumission successive, et qu'il n'y a pas d'alternative. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'alternative parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'alternative. Et je reviens effectivement à votre remarque, parce que ça fait peur, parce que ça nous isole, parce que ça nous stigmatise, peut-être, dans un milieu social, familial donné, professionnel donné, parce qu'il y a l'incertitude, c'était le café Philo du mois dernier, il y a l'incertitude, et que l'incertitude, ben en fait, je ne sais pas où j'avance. Et donc, il est évidemment beaucoup plus confortable de se dire qu'on n'a pas le choix. Mais je ne dis pas qu'on a le choix. Je dis simplement que il y a des personnes qui font des choix que d'autres ne font pas. Mais ça ne veut pas dire que ces choix soient l'expression de leur libre arbitre. Thomas Braille, il a aussi une socialisation. Thomas Braille, il a été aussi lui-même influencé. Et il y a forcément des raisons dans son parcours d'existence qui font que lui, à un moment donné, va se mettre en grève de la faim et de la soif, et que d'autres non.
Oui.
Oui. Ils sont capricieux.
Ouais, c'est bon. Ouais. Du coup, c'était pour rebondir à la dame qui a nuancé mon propos tout à l'heure en disant que oui, il y a quand même des personnes qui, malgré leur situation sociale de départ, vont par exemple faire une ascension sociale, vont faire pas ce qu'on attendait au départ, mais il faut vraiment se rappeler que statistiquement c'est des parvenus. C'est par exemple un fils d'agriculteur, d'ouvrier en agriculteur qui va finir prof de fac, ça existe peut-être, mais statistiquement c'est infime par rapport à quelqu'un qui est prof, qui est fils de prof et qui va devenir prof de fac, quoi. Du coup, ouais, c'est ce qu'on appelle un parvenu. Du coup, c'est possible de faire le choix, je pense, mais il faut avoir conscience des structures qui nous déterminent. Et si on n'a pas conscience, si on vit notre vie sans réfléchir, parce que moi, quand parfois, je suis pas toujours, chaque action que je fais, je suis pas toujours en train de me dire que je fais un choix. Mais peut-être que je fais des micro-décisions. Hein, j'en
très sais. Rarement.
Même rarement.
En train de calculer.
Et ben, jamais on va poser la question qu'on se pose ce soir, même. Voilà, on va faire notre vie, et puis ce qu'on attend de nous, et etc.
Moi, je me permets, juste pour rebondir, je reprends la parole, excusez-moi, mais très rapidement. En gros, ce que vous mettez ici dans la discussion collective, c'est la question du déterminisme. C'est-à-dire, vous êtes bien gentil avec votre choix, etc., etc., mais socialement, psychologiquement, physiquement, ce que disait aussi madame sur la santé, ou sur telle ou telle pathologie, mais en fait, vous êtes bien gentil, mais en fait, ça s'impose à moi. Et que...
Quand on allez. Est dans la misère, quand on est handicapé, c'est quand même plus difficile de faire des choix que...
Mais ça vaudrait pour tout à chacun. Allez, petite citation philosophique de Spinoza. Non, mais c'est juste... Elle est magnifique, cette citation. Ah, il y a ça, et Spinoza dit aussi, les hommes se croient libres, la liberté, pour lui, est une illusion. Les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. C'est-à-dire, moins on est conscient de ce qui nous détermine, plus on se sent libre, et plus on va revendiquer une liberté qui, à ses yeux, est d'abord illusoire, plus je sais ce qui me détermine, socialement, économiquement, physiquement, etc., etc., effectivement, bah, moins je considère que je suis libre. Et finalement, le travail, c'est ce que vous disiez, madame, ça va être un travail de la connaissance de soi. Qu'est-ce qui me détermine à faire ceci ou à faire cela, à choisir ceci plutôt que cela? Et le sachant, si jamais je pouvais le savoir, c'est un travail infini, à ce moment-là, je pourrais peut-être prétendre au libre-arbitre, c'est-à-dire un choix libre et éclairé. Mais notre condition initiale, c'est quand même celle de l'ignorance de ce qui nous détermine. Si on veut actualiser, excusez-moi juste une remarque, Spinoza, c'est le XVIIe siècle, Spinoza ne peut pas anticiper les neurosciences, mais il y a toute une façon de lire Spinoza qui irait dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous avons un savoir scientifique qui établit que, effectivement, nous sommes d'abord des cerveaux reliés à un système nerveux, et que nous produisons des hormones, et que ce que nous prenons comme étant des libres choix sont peut-être d'abord l'effet de causes somatiques, de causes hormonales, de causes cérébrales, bref, de ces machines vivantes que nous sommes en partie. Oui, monsieur.
Oui, je crois qu'un des bons exemples de choix où chaque membre de la société a été mis devant son libre arbitre.
On n'a pas le choix des micros.
C'est il y a quelque temps le Covid. On a eu le choix de se vacciner ou de pas
se vacciner. La meilleure preuve, c'est qu'il y a plein de gens du système sanitaires qui ont choisi de ne pas être vaccinés et qui ont été suspendus pendant 100 ans.
C'est très juste, ouais. très bon exemple. Madame, oui. Oui, oui.
Du coup, je voulais revenir sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, quand on fait le choix de renoncer au choix, c'est un manque de maturité, du coup, parce qu'on a peur de choisir. Mais pour vaincre cette peur, nous devons, du coup, réécrire nos croyances. Mais du coup, comment on réécrit nos croyances pour s'affirmer? Et j'avais une question aussi par rapport à une autre question. Donc, comment on choisit notre métier? Je ne sais pas si je peux poser cette question parce que ça ne rentre pas trop dans le thème, mais comment on choisit du coup notre métier étant donné que l'homme n'a pas d'essence, comme l'avait dit je ne sais plus qui, comme une chaise ou une table?
Jean-Paul Sartre.
Voilà. Oui. Donc voilà.
Donc il y a deux questions que vous proposez dans la discussion. Si je résume, la première question c'est, alors, si le choix repose sur une connaissance, mais comment est-ce qu'on fait? Et deuxième question, c'est si nous n'avons pas, s'il n'y a pas d'essence humaine, de nature humaine, pour le dire de manière un petit peu large et de manière compréhensible, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer le sens de notre existence? Comment est-ce qu'on la guide, cette existence? Ou est-ce qu'on est déterminé par, ou est-ce qu'on détermine nous-mêmes? Est-ce qu'on est acteur ou est-ce qu'on est agent, pour reprendre la formule liminaire?
Je voulais juste dire, où est-ce qu'on ne peut pas dire T dans un
temps? Oui. C'est l'arrêt du micro, madame. Oui, monsieur.
Oui, donc, à titre personnel, j'ai conscience du libre arbitre. Et pourquoi? Donc, je prends un exemple tout simple, là, c'est ce qui s'est passé maintenant, c'est que, alors au début de la séance, j'ai entendu qu'il y avait une règle. La règle, je l'ai entendue et j'ai fait le choix de la respecter. Quand j'ai levé la main, j'avais spontané quelque chose à dire. Et j'aurais pu, alors c'est venu, donc la réflexion est venue plus tard, pas dans l'instant, c'est-à-dire que les conséquences, je les ai pensées sur le temps, pas tout de suite. Et donc sur le temps, je me suis dit, si je m'étais rebellé, si je m'étais manifesté, si je m'étais mis en colère, injustement, face à la règle qui était imposée, dont ce n'est pas moi qui organise la soirée, quoi, le Philomania, etc. Donc je ne suis en aucun cas légitime.
Pas que ça nécessite une colère, quand même.
Oui, mais on peut faire ce choix de réagir sur l'émotion, par orgueil, etc. Quoi. Quelles auraient été les conséquences? Je serais rentré chez moi et peut-être que les conséquences sur le plan émotionnel auraient été très négatives. Peut-être que je l'aurais passé une très mauvaise nuit, d'ailleurs. Enfin, je me connais, c'est un peu comme ça. Donc du coup, je préfère la tranquillité et me dire, donc j'obéis à la règle de départ et donc j'attends. Et en fait, en attendant, peut-être que j'ai là maintenant un discours peut-être plus posé, moins précipité, etc. Donc je veux juste dire que la tranquillité, ça n'a pas de prix, et que la tranquillité, on peut l'avoir, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit dans n'importe quel milieu social. Le but, c'est de. Enfin, le but, c'est pas le but, mais l'objectif au quotidien, c'est de faire des choix pour obtenir la tranquillité. Et ne pas. Parce que quand on est dans un pays, par exemple, ma femme, donc je la considère comme ma femme, qui est chinoise, elle n'a pas choisi de naître en Chine. Et bon, elle n'est pas née sous Mao.
Non, mais elle est. Bah, terminez votre propos. Essayez de parler fort alors, peut-être pour l'assemblée.
Donc ma compagne qui est en Chine, qui a choisi d'être en Chine, encore une fois les panneaux sous Mao, qui est un régime dur, rigide, qui a des choix très difficiles. Les choix du pouvoir en place ont des conséquences directes sur les citoyens.
Mais la Chine et les citoyens chinois, ils existent toujours. Il y en a toujours en vie, quoi. Il y a toujours des gens vivants encore. Donc la Chine ne s'est pas détruite sous Mao, elle persiste encore, elle continue encore. Et Meng Yuan a peut-être fait le choix. Alors, c'est pas à moi d'y répondre, c'est à elle, hein, c'est elle qui a sa propre vérité. Enfin, moi, je ne peux pas mettre à sa place. Et elle peut répondre du fait pourquoi elle a choisi de s'extraire de sa famille en Chine pour trouver peut-être une autre tranquillité en France où elle se sent plus apaisée, plus tranquille, plus sereine, plus calme par rapport à là où elle est née. Bon, c'est un choix qu'elle a fait qui maintenant, c'est peu. Seule elle peut répondre, je ne peux pas répondre à sa place.
Merci.
Oui, je voulais rebondir sur le. Quand on a le choix, on a cette obsession humainement de faire le bon choix, en théorie. Mais dans le mécanisme intérieur, notre mécanisme intérieur, le problème, c'est que humainement, on a différents outils, on a la raison et puis on a aussi le cœur. Et on s'aperçoit qu'en fait, ces différents mécanismes sont souvent en dualité dans notre choix. C'est-à-dire entre la raison, entre le cœur, entre différentes choses, des paramètres extérieurs. Nous voulons faire le bon choix, mais souvent, nous privilégions la raison. Et personnellement, je m'aperçois que souvent le choix est plutôt fait par le cœur. Plutôt. Donc, voilà, c'est juste une.
Et qu'en ce sens, si je me permets juste de poursuivre, mais vous pouvez me corriger, bien sûr. Oui. Et qu'en ce sens, si c'est le cœur, la sensibilité, le désir qui est moteur, oui. Qui est l'essence même de l'homme, ça voudrait dire qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que le désir, la passion, le cœur, comme vous le dites si bien, il s'impose à moi, malgré moi. Quand j'aime, oui. J'aime. Oui, je peux essayer de me dire non, t'aimes pas, mais j'aime.
Oui, c'est ça, parce que notre choix est souvent faussé.
Par exemple, si je vois une belle femme très riche, ma raison va dire c'est la femme qu'il me faut. Mais si je rencontre une femme pas très belle mais pas très riche, mais qui émeut mon cœur va dire mais c'est la femme qu'il me faut. Alors après, si j'ai deux femmes, une riche et une qui me rend amoureuse, laquelle choisir? Là, voilà, c'est là où le dilemme entre la raison, oui, on peut prendre les deux, mais bon, c'est pas compliqué. Mais là, le dilemme entre la raison et souvent, la raison dit le choix, le bon choix, c'est ça. Mais en grande majorité, je trouve que c'est le cœur qui décide, en fait.
Et donc, il s'impose à moi.
Oui.
Oui. Donc tout à l'heure on a parlé du choix, donc qui entraîne une responsabilité, donc la peur de la responsabilité. Bon, la servitude volontaire, ça a été décrit il y a bien bien longtemps. Donc,
peut-être une petite précision. La servitude volontaire, écrit de la Boétie. Étienne de la Boétie, le jeune Étienne de la Boétie.
Siècle, il avait 16 ans. Voilà. Et donc ça c'était décrit depuis longtemps, c'est-à-dire que on peut faire son point de vue, mais tout accusé au procès de Rapper dit « je n'ai fait qu'obéir aux ordres, donc je n'ai pas fait de choix ». Donc le fait de ne pas faire de choix, c'est une façon de se dédouaner de sa propre responsabilité, c'est ça qui fait peur. Alors, donc ça c'est un point à considérer. Après, j'ai entendu aussi « la tranquillité n'a pas de prix ». Si, elle a un prix, elle a toujours un prix. Si je choisis de laisser... des gens bastonner une personne dans la rue pour être tranquille et que je n'interviens pas, ça a un prix pour moi, quand même, ça a un coût par ma conscience, par rapport à mon estime de moi. Je peux faire, je dis, j'ai pas choisi, j'avais pas le choix. Si, j'avais le choix, je pouvais aller aussi prendre la défense de la personne avec le coût de, dans les deux sens du terme, de m'en prendre. Et aussi, on a évoqué la question de l'inconscient, des déterminismes. Hein, qui choisit? Qui choisit? En fait, je prends une décision, mais qui choisit? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est mon cercle d'amis qui sera fier de moi parce que j'aurais pris telle décision, etc. Donc, il faut considérer aussi dans un choix, voilà, où est son origine. Et puis, le dernier point un peu plus politique qu'on a abordé aussi, c'est en parlant des déterminismes et des statistiques sur les fils de profs et les fils d'ouvriers agricoles, faut se méfier, il y a une grande mythologie du choix dans le libéralisme économique. Quand Macron dit à un de ses interlocuteurs qu'il pourrait lui aussi avoir un beau costume s'il s'en donnait la peine,
qui peut traverser la rue.
Hein, donc il faut se méfier de ça aussi, parce qu'on On a le discours qui valorise le choix comme un élément de liberté, comme un élément de conscience et d'affirmation, hein, en tant qu'humain. Mais en même temps, il y a un deuxième discours qui est plus pervers, qui est de dire t'es pauvre, ben c'est de ta faute, mon vieux. Hein. T'es malade, c'est de ta faute. T'es gros, c'est de ta faute, hein, etc. Donc, il faut faire très très attention avec cette idéalisation du choix qu'on n'a pas toujours, en fait.
Et qui relève d'une... Je vais prendre la parole de manière trop technique. J'allais dire qui relève d'une anthropologie libérale, qui consiste à dire, mais non, il n'y a pas d'éterminisme, vous êtes des acteurs, et donc à vous de faire les bons choix et à vous d'en assumer la responsabilité. Dans l'ordre... Ah pardon, excusez-moi, madame, je vous avais pas vu.
Juste pour signaler, enfin, je pense qu'il y a aussi dans le temps des choix qui doivent être rapides, et puis des choix où on a le temps, et donc entre un choix rapide et un choix lent, peut-être que il y a il y a quand même un poids différent entre les deux.
Jusqu'à peut-être aller jusqu'à dire que l'urgence de l'action
Oui.
L'impératif d'avoir à agir ou à réagir plutôt,
réagir,
à s'adapter à son environnement, nous prive de choix.
Oui, un petit peu. Enfin, c'est oui, il y a un manque de réflexion, donc peut-être aussi oui un mauvais choix, un manque de choix, voilà. Et vous pouvez me rappeler La Boétie, j'ai pas tout.
Alors La Boétie est un jeune auteur du 16e siècle qui a écrit, il avait quel âge, 18 ans je crois. Ouais, voilà, 17-18 ans, un ouvrage politique qui s'appelle « De la servitude volontaire » et dans lequel il nous dit, ou il dit à ses contemporains, c'est un ouvrage qui a été extrêmement polémique dans une société féodale et monarchique, qui nous dit que nous sommes toujours responsables de nos soumissions et que si nous nous soumettons au tyran, ce qu'il appelle l'un, avec un grand U, avec un grand N, si nous nous soumettons à notre tyran, c'est parce que nous le voulons bien. Il n'est debout, dit-il, de mémoire, que parce que nous acceptons d'être à genoux. Et que finalement, ça peut, le sens même de la désobéissance civile, c'est pas forcément la révolution, il suffirait, sans même prendre le palais d'assaut ou d'entrer dans la violence, il suffirait de ne plus obéir, de jouer la règle du silence, de ne pas payer ses impôts, par exemple, pour que la puissance du tyran et de ses quelques acolytes qui gouvernent d'une main de fer un pays ou une communauté, pour que la puissance du tyran s'affaisse d'elle-même. Finalement, nous sommes nous-mêmes nos propres bourreaux en laissant faire le tyran dans sa domination parce que nous avons, ce que ça a été à un moment donné évoqué, peut-être peur de faire des choix. Alors, c'est une vision très libérale hein, et peut-être d'ailleurs discutable et contestable. Hein.
Oui.
Parce que vous êtes dans une dictature en disant, mais en fait, c'est parce que vous acceptez de vous soumettre que le dictateur est encore là. Ouais. Donc il y avait la question de la temporalité. Hein. On note sur la question du choix. Oui, monsieur.
Oui, je voudrais revenir sur une notion, tout à l'heure quand on a parlé de raison et de déterminisme, la notion de connaissance qu'on peut retrouver peut-être à deux niveaux. Hein, le niveau que j'appellerais amont, je ne sais pas si... le vocable est le bon, mais au niveau de la mécanique, si on repart sur le déterminisme, où on peut imaginer effectivement que l'origine, l'hérédité, etc., enfin, tout un tas de contextes de vie fait qu'on va être amené, avec les informations, l'expérience qui est en mémoire aussi, on n'a pas parlé de la mémoire, mais qui peut nous faire décider à quelque chose. Donc connaissance de soi, hein, qui semble être importante pour prendre décision. Et je dirais aussi connaissance tout court des sujets ou du sujet, c'est-à-dire de la palette. Tout à l'heure, on parlait de la palette de l'offre, hein, et on va faire un choix parmi celles-ci. Mais c'est vrai que, alors j'ai envie de dire la volonté de connaître, c'est pas forcément judicieux de dire volonté, mais l'envie, le désir de connaître, c'est-à-dire de s'informer plus et d'aller au-delà de son propre avis ou de sa propre opinion, donc basculer, on va dire, de l'opinion à la connaissance, peut être effectivement déterminant pour faire un choix qui est plus éclairé. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple, peut-être assez imagé, mais des platistes hein, qui ont l'opinion, hein, qui ont l'opinion que la Terre est plate. Et c'est vrai que quand on a la volonté, peut-être des platistes dans la salle, je ne sais pas, mais quand on a la volonté vraiment d'objectiver ça et d'aller s'informer sur des brochures, des documents, des articles scientifiques, rapidement, on arrive à... Mais il faut quand même avoir ce désir d'aller se documenter et de transformer, peut-être parmi la palette, des possibilités qui ne sont que des opinions et qui ne sont pas des véritables connaissances.
Donc d'un mot, peut-être que le choix résiderait, et il faut du temps pour ça, dans un travail de connaissance et d'information et de recherche et de connaissance. C'est-à-dire que pour avoir le choix, encore faut-il avoir la connaissance, vous l'avez dit, de l'éventail des possibilités et la connaissance des motivations.
Absolument.
Qu'est-ce qui choisit en moi? Je me permets juste encore un petit Spinoza. Hein. Ce soir, c'est Spinoza. Spinoza, alors j'ai ça chez moi, dans mon bureau, mais on s'en fiche. J'ai une sorte de petite devise, quoi. Ne pas rire. Ne pas pleurer, ne pas haïr, mais comprendre. Vous allez rire de l'un ou de vous-même, vous allez pleurer tel malheur qui vous tombe dessus ou tel malheur qui touche tel ou tel type de personne ou de communauté. Vous allez haïr le méchant parce qu'il a mal agi. Non. Comprendre qu'est-ce qui agit dans celui qui nous fait rire, qu'est-ce qui agit dans celui qui nous fait pleurer, qu'est-ce qui agit dans celui qui suscite chez nous la haine, ou en nous-mêmes, qu'est-ce qui nous fait pleurer, qu'est-ce qui nous fait nous haïr, comprendre, et c'est peut-être le premier moment d'un choix libre et éclairé, le premier moment de la liberté. Oui, madame ? Non ? Je sais plus, moi, je vous suis...
Oui, on a parlé tout à l'heure du choix pour la tranquillité. Enfin, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'on ferait des choix pour être tranquille. Je me demande si c'est la seule raison. Enfin, on n'a pas parlé du tout de ce qui rendait heureux. Est-ce qu'on fait des choix aussi pour être heureux? Et du coup, est-ce que les choix rationnels rendent toujours heureux? Donc, est-ce que c'est la raison, ce que vous venez de dire là, de Spinoza? En fait, on bannit toute émotion. Et on ne se fie qu'à sa raison. Est-ce que en ne faisant des choix, qu'en ne se fiant qu'à sa raison, est-ce que ça rend heureux? Est-ce que finalement, dans le fond, comme ça a été dit tout à l'heure, et que soi-disant on n'avait plus le choix, est-ce que finalement, ce qui nous fait choisir, c'est pas ce qui va nous rendre heureux a priori, et qui conduit peut-être à des mauvais choix, parce que sur le long terme ou avec l'expérience, on s'aperçoit qu'on a fait un mauvais choix parce qu'on n'est pas heureux. Mais dans le fond, est-ce que c'est pas juste ça qui fait qu'il y a des choix qui paraissent irrationnels, justement, et qui font qu'il y a des gens qui sortent complètement du rang parce que finalement, ça les rend heureux et c'est pas forcément raisonné. Il se trouve que peut-être après, ça fait avancer l'humanité, c'est très bien.
Très bien.
Mais ouais. Individuellement, est-ce que c'est pas juste ça qui nous guide, l'envie d'être heureux et l'illusion que ce choix va nous permettre de l'être?
Oui, alors juste une micro-remarque, la perspective chez Spinoza, c'est pas tant le bonheur que la sagesse. C'est-à-dire un rapport clairvoyant à soi-même et aux autres, et effectivement une sorte de tranquillité, mais au sens philosophique du terme, c'est-à-dire une sorte de sérénité. Et le bonheur étant redéfini, non pas comme une joie continue ou des expériences de jouissance, mais le bonheur étant redéfini de manière négative, comme une absence de trouble. Quand est-ce que je serai heureux? Lorsque je serai serein, en paix avec moi-même, c'est-à-dire sans trouble ni manque, aucun. Et auquel cas, peut-être, effectivement, que la raison intervient, mais effectivement, vous avez raison d'indiquer que cette perspective rationaliste, elle laisse de côté ce que vous aviez mentionné tout à l'heure, monsieur, le cœur, l'émotion, la partie sensible et déterminante de notre existence. Moi, je ne sais pas. Madame ?
Je veux bien répondre. Je veux répondre, du coup. Selon moi, déjà, être heureux, ça ne se recherche pas. C'est la conséquence d'actes importants, parfois même décisifs, de vie ou de mort, d'ailleurs. Enfin, je prends un exemple. Ce week-end dernier, en fait, mon père, il est avec une compagne qui est libanaise. Je me lève le matin, le samedi à 8h, je vois une info, et puis il se passe ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Tout le monde a pris connaissance. De manière spontanée, j'ai pas fait appel à la raison, quoi que ce soit. J'ai tout de suite agi et je me suis concentré, focus, attentionné, et mémorisé toutes les informations que j'avais prises le matin pour intervenir tout de suite, voir mon père et l'empêcher de prendre, parce que tout était réservé, etc. Donc, pour pas qu'il se retrouve au Liban à cet instant. Maintenant, il me remercie. Et donc, du coup, sa compagne qui est libanaise, qui voulait voir sa famille là-bas, et mon père, du coup, ils ont reporté l'avion plus tard. Quoi. Je me dis, la conséquence de cet acte a fait que maintenant, je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit, je suis heureux, enfin, je suis fier de toi et de ce choix, et puis c'est tout. Donc, du coup, on s'est rapprochés encore plus. Être heureux, cela ne se recherche pas, c'est les conséquences d'actes parfois importants, même. Et c'est vrai que c'est tout simple, pas besoin de... Après, je ne m'écarte pas, mais c'est vrai que je voulais aussi parler aussi de... J'ai là une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un nœud dans les mains, un nœud, et le laisser à l'autre? Parce que c'est trop compliqué, ou alors d'un coup, c'est trop difficile à démêler, donc ça prend... Donc moi, ça m'est déjà arrivé de laisser le nœud à ma maman, ou qu'elle démêle toute seule, quoi. Et donc, vous parliez d'un système actuel, donc le libéralisme, le capitalisme, donc c'est les grands mots, on connaît un peu, on cible, etc., un peu pour essayer de comprendre, mais dans un système qui est aussi bien ficelé, aussi ficelé, etc., où il y a des gens qui passent des formations, HEC Commerce, etc., enfin, tous les jours des nouvelles têtes pour encore davantage perfectionner le système tel qu'il est, le faire perdurer, etc. Pourquoi chercher à le combattre? Pourquoi plutôt pas se résigner, mais se soumettre, et dans le sens soumission
positive pour qu'il n'y ait pas de conséquences négatives au quotidien pour nous.
Que le système, on ne vous entend plus, monsieur.
Que le système ne
pas contre nous.
Très bien, merci. Madame ?
Oui, moi je voulais dire que dès la naissance, effectivement, il y a deux choix qu'on n'a pas, c'est la naissance et la mort. Et après, toute notre vie, c'est une succession de choix à faire, y compris celui de mourir. Et depuis tout à l'heure, on dit toujours où, et pour ça, je suis intervenue sans prendre le micro, excusez-moi. Et pourquoi il n'y aurait pas des « et » ? Je veux dire, on est des êtres sensibles, on est des êtres de raison aussi, on est des êtres d'émotion, on est des êtres de pensée, on est des êtres d'action. Ouais. Donc, on peut très bien faire des choix qui sont effectivement des petits choix, qui sont juste peut-être pour notre confort personnel. Bon, on peut faire des choix, effectivement, qui sont beaucoup plus élevés, voilà, qui sont des choix sociaux, des choix politiques, des choix affectifs. On est déterminé par notre milieu social, par notre histoire familiale, par notre généalogie, par notre condition physique, par le pays dans lequel on habite, enfin voilà, etc. Donc je pense que on peut faire des choix qui sont de tout ordre. On peut très bien faire des choix de raison et aussi des choix qui sont, excuse-moi, il y a l'insecte, qui sont des choix du cœur et qui obéissent même à une pulsion. C'est-à-dire qu'on peut, voilà. Mais une pulsion, c'est déjà un choix, c'est un choix du corps. C'est un choix du corps, c'est un élan, mais c'est déjà un choix. Et puis on va faire des choix qui sont des choix très très raisonnés. On a des choix qui sont de la réactivité et des choix qui, comme. Justement, je voulais parler du temps, comme disait madame. Le temps, ça me semble très très important dans le choix. C'est-à-dire qu'il y a aussi le temps de la pensée, de l'analyse, qui fait qu'un choix qu'on peut avoir fait au départ, on peut le rechoisir ou le changer. Et c'est encore un choix. Enfin, voilà, donc je pense qu'on est multiples. Donc tout ça, c'est pas forcément « où », c'est souvent « et ». Voilà.
Merci. Madame ? Non, mais...
Oui, donc vous avez évoqué la vie et la mort, à savoir que nous n'avons pas le choix d'être mis au monde, tout comme on n'a pas le choix de choisir à quel moment on va mourir. Donc moi je pense que oui, à mesure où... alors évidemment, il y a des personnes qui cherchent à faire des choix durant toute leur vie pour tenter d'aller le plus possible vers le bonheur. Mais il arrive aussi que la souffrance est là, et la souffrance peut être incommensurable, au point où effectivement la personne peut choisir. La personne n'a pas le sentiment d'exister, elle n'a pas le sentiment d'être dans la vie, et à un moment donné, effectivement, elle peut faire le choix de mettre fin à ses jours, ou voire même d'être assistée dans la fin de vie.
Ouais. Bien sûr.
C'est pas très joyeux ce que je raconte là, mais.
Voilà. Est-ce qu'on a toujours le choix? Mais voilà, on y reviendra sur cette question de la souffrance. Madame, peut-être? Ah d'accord, Marie-France, pardon. Je ne savais pas.
Oui, moi je voulais, alors à l'opposé du bonheur, parler de situations extrêmes. Je pense par exemple, sous l'occupation allemande, l'immense majorité des gens ont fait le choix de se soumettre. Et puis, il y a eu quelques résistants, pas très nombreux. Je pense aussi aujourd'hui des situations dans les entreprises où la plupart des gens sont soumis pour garder leur job. Et puis, il y a de temps en temps une personne
qui refuse d'obéir parce que ce qu'on lui demande ne lui paraît pas éthique. Et ce qui me frappe, c'est que quand on interroge la majorité qui se soumet, les gens disent « j'avais pas le choix », mais quand on interroge celui qui a dit non, le résistant, ou celui qui fait le choix de se retrouver au chômage et de pas forcément pouvoir retrouver du boulot, il dit aussi « je n'avais pas le choix ». Alors, je n'avais pas le choix. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une adhésion à des valeurs extrêmement fortes, une volonté de les mettre en acte, et puis aussi le courage. C'est un mot qu'on n'a pas encore utilisé et qui me paraît très important dans ce domaine. Et l'autre point, je voulais revenir sur ce que disait Madame, sur le fait qu'on était tous un petit peu conditionnés par l'époque à laquelle on est né, le pays où on est né, la culture, notre enfance, les parents. Mais on a aussi le choix de travailler sur soi pour introduire un petit peu de jeu au sens mécanique du terme, hein, J-E-U, dans ces conditionnements.
Merci. Madame. Ça fait longtemps quand même qu'elle demande la parole.
C'est pas grave. Non, moi, c'est en écoutant tous les témoignages et tout ce qui est dit, c'est vrai qu'en fait, j'étais en train de me dire, mais oui, ça c'est juste. Et je reviens à ma question, qu'est-ce qui crée en nous le choix ? Et le choix est-il un problème ? Et en fait, quoi qu'on dise à propos du choix, qu'est-ce qui dit tout ça ? Et est-ce que ça serait pas notre pensée psychologique elle-même, dans sa structure et dans sa nature ? Qui fait qu'en fait, on tergiverse, on part d'un choix à un autre, le troisième, etc. Et en fait, on dit tous la même chose en prenant des témoignages qui peuvent se résumer à des milliards. Donc, cette pensée psychologique, c'est quoi, en fait ? Il faut aller plus loin dans l'analyse. Elle prend ses racines où ? Ben, dans la mémoire. Et on n'a que ça. C'est-à-dire que le raisonnement, en fait, tout ce qu'on fait quand on pense, on ne fait que puiser dans notre mémoire. Ça ne vient pas du haut de l'air léger comme ça. Même une intuition, il y a une mémoire quelque part, il y a quelque chose, et tout vient de la mémoire. Et la mémoire, elle est donnée. Et la mémoire, c'est quoi ? Ben, c'est le passé. Donc finalement, notre pensée psychologique, elle tourne un petit peu en rond parce qu'elle prend ses racines dans le passé pour les projeter dans le futur. Et en fait, on fait des remakes en permanence. Et donc la notion de choix, ben, elle vient là. Et en fait, qu'est-ce qui serait libérateur là-dedans ? Ça serait de voir les mécanismes de cette pensée. Et en fait, qu'est-ce qui rend anxiogène cette notion de choix, peut-être ? C'est cette notion d'être sans arrêt dans le passé ou dans le futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous arriver avec la question, par exemple, des immigrés en France, qu'est-ce qui va nous arriver ? Là, on projette une angoisse issue de la mémoire dans une situation qui n'existe pas encore. Et en fait, notre mental, notre pensée ne fait que ça. Donc ça génère de la peur, etc. Donc est-ce que le choix ne prendrait pas plutôt ses racines dans un instant présent ? Vraiment un instant T, parce que la pensée n'est pas dans l'instant présent. On est dans l'existence elle-même, en direct. Et donc, à ce moment-là, le choix est vraiment pertinent à ce moment-là. Mais il ne l'est pas quand on discute aille dessus basé sur des racines de passé ou sur une anticipation de l'avenir à partir de ce qu'on a craint dans le passé. Parce que là, c'est pas un choix, c'est on tourne en rond. Point d'interrogation.
C'est une autre façon de repenser le rapport à la temporalité aussi. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez... d'autres... Oui, madame.
Je pense que la question « Est-ce que j'ai le choix ?» c'est pas très important parce que je suis encore jeune et j'ai beaucoup de choix. Alors, selon moi, le plus important, c'est que je peux avoir une nouvelle expérience de ma vie. Quand j'ai choisi d'aller en France, c'est pas si difficile parce que dès que l'université d'Orléans m'accepte, j'y vais. Et c'est pas parce que la France est une société démocratique, même si je connais pas la Chine, c'est une société dictateur, c'est une société selon vous pas bien. Mais pour nous, moi, les Chinois pensent que la Chine, c'est le meilleur pays du monde, en fait. Alors, ce n'est pas le problème que j'ai choisi la France. C'est juste que je suis encore jeune. J'ai l'opportunité d'aller en France. J'y vais. Et aussi pour chaque... Je crois que tout au long de notre vie, chaque choix, ce n'est pas c'est pas le choix qui est important, c'est le point qui ça change la vie. C'est-à-dire comment ce petit choix qui transitionne une autre expérience. Et ce point-là, il transitionne une autre expérience. C'est chaque choix, c'est lié à notre vie pour construire je suis maintenant. C'est le choix qui changeait notre vie comme différencier d'autres personnes. Comme au début, qu'on est tous les bébés, on n'est pas tout est pareil. Comment maintenant on devient ce personne-là, ça c'est important. Je pense que c'est important.
Oui, ça ne repose pas forcément d'ailleurs sur des choix cruciaux, c'est peut-être une série de décisions ou de micro-décisions qui, à un moment donné, opèrent une transition vers
un type de vie,
une nouvelle expérience, une nouvelle forme d'appréhender son existence. Me semble-t-il. C'est pas forcément tout ou rien à chaque fois. On n'est pas toujours en train de choisir entre le oui et le non, etc. Madame, oui, pour une dernière intervention. Madame ? Non, non, mais. On ne peut pas vous censurer.
Je peux répondre.
Oui.
Du coup, je voulais revenir parce que. Déjà, est-ce que je peux parler un peu de ma vie perso ? Ça va pas être très long, mais voilà.
Ouais, il est bientôt 30.
Mais... Oui, je mais me dépêche.
Allez-y, oui, bien sûr.
Non, parce que en pratique, je vis du coup le dilemme entre la raison et le cœur. Donc voilà, moi, mon cœur, il me dit, donc j'ai envie de sortir du rang, voilà. Et mon cœur, il me dit de faire de la philosophie. Et ma raison, elle me dit de pas le faire, et elle prône mon autonomie financière. Et du coup, voilà. Est-ce que je peux choisir le cœur tout en vainquant mes contraintes ? Donc on disait tout à l'heure, donc la question du déterminisme. Donc tout ce qui m'a déterminée n'a pas été propice à ce que je puisse faire à jouir d'enseignement de philosophie. Et voilà. Si quelqu'un a une petite réponse. Oui, j'y ai pensé. Mais...
Moi, je peux peut-être répondre un peu en répondant à Manguen à la fois.
Court,
oui. Donc. Par rapport à, pour répondre à Manguen, donc je considère l'existence, en tout cas notre existence de la naissance à la mort, enfin au décès, ou à la mort, enfin, comme on voit là, au décès, et comme une chronologie, quoi. C'est comme dans comme en histoire, on apprend une chronologie avec des faits importants et d'autres faits, bon, on les met un peu en arrière-plan, peuvent être à l'important. Et du coup, il y a des faits importants. Alors bon, à titre personnel, j'en parle, c'est que c'est l'engagement avec Manguen, hein, du coup, c'est un fait important qui est historique. Dans ma propre presque chronologie, je sais pas comment on appelle plus. Et du coup, c'est des décisions importantes, c'est tout. Donc, c'est agir surtout. Et prendre des décisions, s'engager, c'est bon. S'engager, je fais un peu du Sarkozy, mais c'est un peu ça, c'est un peu l'idée.
Toute dernière, non, madame, non.
C'était pour un petit peu rebondir sur ce que disait la personne.
Effectivement, je crois que c'est très important de dire que nos choix, ils induisent aussi après ce qu'on est et nos différences avec les autres. Comme vous disiez, ça peut être des choix qui sont minimes, même des choix importants, mais des choix minimes. Et c'est vrai que c'est peut-être la beauté de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de choix à faire et que quand on vieillit, je peux le dire, les choix se restreignent quand même.
Bah, choisir, c'est renoncer. Voilà. C'est la peau de chagrin. Hein.
Voilà.
Voilà. Ouais, juste quelques petits mots pour tenter de conclure et de synthétiser ce qui s'est dit. C'était très riche. La question, c'était de savoir si on a toujours le choix. Et finalement, l'adverbe « toujours », c'est peut-être celui qui a été mis en débat. Est-ce qu'on a toujours le choix ? Est-ce qu'on a parfois le choix ? Est-ce qu'on a jamais le choix ? Bref, de quelle liberté disposons-nous ? Est-ce que nous sommes, je disais tout à l'heure, les acteurs de notre existence ? Est-ce qu'on en tient les rênes et on les conduit entre de la naissance à la mort de la manière la plus optimale pour nous, pas forcément heureuse ou la plus sage, ou est-ce qu'au contraire on est agi de toutes parts, on est déterminé de toutes parts, on croit avoir le choix, on croit avoir la main, on croit prendre des décisions, mais soit ça relève d'une idéologie libérale qui veut nous transformer en micro-entrepreneurs de notre propre existence et devoir assumer en première personne tel ou tel type de ce qui est considéré comme un échec. Donc soit ça relève d'une idéologie néolibérale, soit ça relèverait d'un parcours social, peut-être, on n'a pas forcément évoqué, mais peut-être que pour faire des choix, il faut avoir une confiance en soi, une assise dans l'existence. Et cette assise dans l'existence, je reviens sur ce que vous parliez de mémoire, il y a une mémoire cognitive, il y a une mémoire affective, c'est que la première condition du choix qu'un jeune adulte, qu'un adulte peut faire de lui-même, il relève peut-être de l'amour dont il a bénéficié au cours de son enfance. C'est-à-dire que l'amour, c'est pas simplement un mot comme ça, un mot pour la Saint-Valentin. C'est l'amour qu'une famille va prodiguer à un enfant. C'est autant de confiance qui vont lui permettre, à un moment donné, de sortir du rang, comme vous disiez, madame, de faire des choix qui, semble-t-il, nous correspondent. C'est parce que je t'aime que tu vas faire ta vie. Et je ne serai pas toujours à la recherche de l'amour perdu de ma famille, de qui sais-je, que sais-je encore, en essayant d'agir comme je pense qu'il aurait aimé ou qu'elle aurait aimé que j'agisse. Finalement, en répétant toujours ce vœu qui relève d'un échec. Et finalement, c'est ce vieux débat entre liberté et déterminisme qu'on a tenté d'éclairer ce soir, avec la question de la temporalité, avec la question de la mémoire, avec la question du cœur dans son débat, dans sa conciliation possible ou non avec la raison. Qu'est-ce qui agit ? Voilà, est-ce que je fais le choix du cœur, le choix de la raison ? Et finalement, face à ça, je pense qu'on a, on a deux perspectives possibles. On a, je vais me permettre de petites références philosophiques pour terminer. On a une perspective qui est celle d'un Jean-Paul Sartre, le philosophe écrivain du XXe siècle, qui est celle d'une liberté absolue. Vous disiez tout à l'heure, en tout début de séance, madame, on n'a pas le choix d'avoir le choix. Nous sommes condamnés à être libres, dit Sartre. Et que finalement, parce que je suis, malgré moi, je n'ai pas choisi un être doué de raison, de conscience, capable de m'informer, et je m'informe malgré moi, je ne peux pas faire comme si je ne savais pas. Et vous connaissez peut-être la phrase de Sartre, qui est écrite en septembre 1944, fin septembre 1944, Paris vient d'être libéré le 25 août. Le conflit, la Seconde Guerre mondiale, n'est pas encore à son terme, 8 mai 45 pour l'Europe. Et Sartre écrit un article très court dans les Lettres françaises, avec une ouverture qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, encore aujourd'hui, peut sembler assez choquante. Sartre écrit ceci: « Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande. » Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande. Ce qui est un paradoxe. On va dire, en fait, non. Il y a les nazis à Paris, ils nous arrêtent, ils nous surveillent, ils nous déportent en masse. Et ça continue en disant, mais c'est précisément parce qu'on nous crachait au visage, parce qu'on nous déportait en masse, qu'on nous surveillait, qu'on nous arrêtait, que nous avons été libres. D'abord parce que, c'est comme pour le bonheur, je prends conscience de la valeur de ma liberté quand j'en suis privé. C'est comme pour la santé. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, mais je n'en jouis pas. Et c'est quand je serai alité dans mon hôpital que je me dirai « Ah, c'était chouette quand même, quand je tenais le micro du café philo, c'était en bonne santé. » Ça, c'est un premier point. Ce n'est pas le point sartrien. Et le point sartrien, c'est que c'est précisément lorsque je suis face à l'adversité, face à un état de fait que je n'ai pas choisi, je n'ai pas choisi, je suis français en 1944, je n'ai pas choisi l'occupation allemande, je n'ai pas choisi le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, que je me choisis. Être libre, nous dit Sartre, c'est pour ça que nous avons toujours le choix de son point de vue. Ça n'est pas le fait de choisir son existence, c'est se choisir à partir de ce que nous n'avons jamais choisi. C'est faire de soi autre chose que ce qu'on a fait de soi. Et face à l'occupant allemand, soit je résiste, soit je collabore activement ou passivement, soit j'attends, il y a plein de bonnes raisons d'attendre, soit je fuis, soit je me donne la mort, mais quel que soit, je ne pense pas qu'il y ait d'autres perspectives, quel que soit le choix que je perds, je suis condamné à m'engager. Le choix, ce n'est pas une simple histoire de raison, de calcul, d'affect, etc. Le choix, et vous l'avez dit à un moment donné, c'est un acte. Ça nécessite du courage, d'accord ? Le courage d'avoir le choix. C'est un acte. Nous sommes embarqués, nous sommes engagés, et quoi qu'on fasse, nous choisissons. Si je choisis de ne rien faire pendant la Seconde Guerre mondiale, bah j'ai choisi d'attendre. Et c'est ni bien ni mal, pas de jugement de ma part. Donc ça, c'est l'idée d'une position, finalement, absolutiste. On a toujours le choix parce qu'en fait, nous sommes des personnes humaines, douées de raison, douées de conscience, et qu'on n'est pas des micros ou des tables. Voilà. Ça, c'est un premier point. Et puis, face à ça, on a envie de dire, mais peut-être quand même que tu as une vision peut-être un peu trop, comment dire, idéaliste de la chose. Franchement, écrire ça en septembre 44, lorsque on a encore des juifs hongrois qui sont déportés en masse et gazés à Auschwitz-Birkenau, vous allez dire ça dans un wagon plombé en disant « Jamais on est aussi que sous occupation allemande ». C'est pas scandaleux de dire ça. Et finalement, on a envie de dire, mais soyons peut-être un petit peu plus modestes, soyons un petit peu plus réalistes. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à ce que j'avais suggéré. Peut-être que le choix, il se joue non pas dans cet engagement absolu, mais il nécessite le temps, la possibilité, la mémoire, le travail affectif, l'amour, j'en parlais tout à l'heure. Il nécessite ce travail de la connaissance, ce travail sur soi et sur les autres de la raison. Et je vous terminerai par une dernière référence empruntée à un autre univers philosophique, une autre époque. On est avec les stoïciens, on est avec Épictète, qui est un esclave romain. Il n'a pas choisi d'être esclave dans un monde esclavagiste. On est au 1er siècle après Jésus-Christ. Et ce sont le manuel d'Épictète. Épictète écrit ceci de mémoire. Je ne pense pas que ma mémoire me fasse défaut. Si tu aimes un vase d'argile, dis-toi, j'aime un vase d'argile. Vient-il en effet à se briser et tu n'en seras pas troublé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu sais que le vase d'argile auquel tu tiens comme à la prunelle de tes yeux, c'est de l'argile, c'est friable. Et que le temps fera son œuvre et qu'un mauvais geste, et puis vous avez votre vase d'argile en mille morceaux. Et il ajoute, si tu aimes ta femme ou ton enfant, dis-toi que tu aimes un être humain, vient-il en effet à mourir, et tu n'en seras pas troublé. C'est une leçon extrêmement rude, qui consiste à nous dire finalement, mais lorsque ce matin j'ai embrassé ma femme, ce qui était le cas, je fais un petit bisou à ce soir, et ce matin. D'accord ? J'ai café philo ce soir, je reviens, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai embrassé un être humain. Je peux tout à l'heure perdre la vie, elle peut perdre la vie, enfin, il y a mille choses qui peuvent arriver entre ce matin et ce soir. Et ça, je ne le choisirai pas. Ce que je choisirai, c'est grâce à ce travail, vous voyez, quotidien de la raison, de l'exercice sur soi, du retour sur soi, de la connaissance, se rappeler que j'aime un être humain, qu'un être humain, il a ses limites, que j'ai mes limites, et que face à cela, on n'a pas d'autre liberté que de l'accepter. Vous avez le choix de quelques petits mets pour prolonger le débat si vous le souhaitez.
Mais alors, Pulpomania se termine toujours par un temps de convivialité, mais avant, on vous demande un tout petit coup de main pour remettre les chaises autour des tables qu'on a poussées contre les murs. Et puis après, tous au fond.
Pardon, mesdames.
J'ai pas de news de Gilles.